Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi pile sur Europe 1. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On va aller dans le Bas-Rhin où près de 2000 élèves ont des problèmes de transport scolaire car il manque des chauffeurs de bus. La France compte plusieurs millions de chômeurs et on n'arrive pas à trouver des chauffeurs de bus pour transporter des enfants. On sera sur place. Emmanuel Macron sur un bateau ce matin à Marseille après avoir parlé aux policiers et aux professeurs. C'est aujourd'hui la carte postale du président écolo qui nous est envoyée. Stéphane Burgat est sur place. Le président de la République qui trouve qu'il y a trop de grèves à Marseille et trop d'absentéisme, notamment dans les écoles. Et si c'était la vérité? Et si la ville avait besoin d'une reprise en main? On en parlera avec la secrétaire nationale du syndicat de profs SNES-FSU. On parlera également, évidemment, de cette expérimentation sur les directeurs d'école qui pourront choisir les professeurs dans les écoles à Marseille. Et puis, les municipalités de Lyon, de Bordeaux et de Montpellier veulent, comme à Paris et Lille, imposer des loyers maximum aux propriétaires d'appartements et de maisons mises en location. C'est l'encadrement des loyers. Ça sert vraiment à quelque chose? Je poserai la question à Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Europe 1.
900 élèves totalement privés de bus dans le Bas-Rhin, 900 autres avec des horaires de bus modifiés. Pourquoi cette pagaille? Ce n'est pas à cause d'une grève, c'est à cause d'une pénurie de chauffeurs de bus. Marion Gauthier, expliquez-nous ce qui se passe.
Alors, difficulté de recrutement, explique sobrement le réseau de transport Fluo Grand Est. Résultat, les bus de 23 lignes sont restés au dépôt hier et ce matin. 900 élèves, vous l'avez dit, se retrouvent sans solution. 900 autres peuvent modifier leur trajet, mais devraient accuser un retard en cours. Ce sont surtout les zones rurales qui sont touchées. Les parents ont organisé des covoiturages à la dernière minute. Frustration du maire de Surbourg. Une quarantaine d'enfants de son village se sont retrouvés sans possibilité d'accès à leur lycée dans la ville la plus proche, à l'avant-veille de la rentrée scolaire. Olivier Roux, comme ses administrés, n'a été prévenu que mardi soir.
Il y a des parents qui prennent congé, il y a des arrangements à trouver. On arrive toujours à trouver des solutions, mais pour les mettre en œuvre, il faut un peu de temps. Et le temps ne nous a pas été donné. On vit au jour le jour, on est tributaire de l'arrivée au compte-gouttes de chauffeurs. Un appel a été lancé par la région aux différents maires de voir s'il y avait des chauffeurs à la retraite qui pourraient reprendre temporairement leur activité.
Et certains parents ont demandé la mise en place de navettes communales, mais le même problème de manque de personnel se pose. Pour les élèves qui ont une gare à proximité, la région doit proposer des coupons en début de semaine prochaine pour leur permettre de prendre le train gratuitement. Cela ne peut pas durer, lance Olivier Roux, sans avoir aucune information sur un retour à la normale.
Merci Marion Gauthier. Je voulais vous avoir en direct avec nous dans Europe Midi, Franck Favre. Merci d'avoir accepté, vice-président du MEDEF Alsace. Il est impossible aujourd'hui, Franck Favre, d'embaucher 60 personnes pour conduire des bus scolaires dans le Bas-Rhin ?
Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a un problème effectivement, avec l'entreprise. Enfin, l'entreprise Kélios a un problème de recrutement de 60 chauffeurs. Mais plus généralement, on a des difficultés de recrutement et on a alerté les services de la préfecture depuis des mois. On est en train de travailler avec Pôle emploi, mais aujourd'hui, avec le Covid et avec la crise sanitaire, des gens ont du mal à revenir au travail, des gens ont pris leur retraite. Et aujourd'hui, on a un vrai déficit global dans beaucoup de secteurs et notamment dans le transport de recrutement et de personnes, de candidats, tout simplement.
Ce que les Français
c'est un vrai problème structurel aujourd'hui.
Ouais. Pardon? Mais ce que les Français ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a, plusieurs millions de chômeurs et que là, on ne trouve pas 60 personnes pour conduire des bus scolaires.
Alors écoutez, au mois d'avril, on a saisi effectivement la préfecture en leur disant qu'on avait à peu près 2000 postes à pourvoir, que les formations n'étaient pas en adéquation, que le personnel effectivement qu'on recrutait ou qu'on avait en candidat qui nous est ramené par Pôle emploi n'était pas au niveau. Et donc du coup, on a un vrai déficit et là, la crise sanitaire, on se le prend effectivement un peu de la figure, c'est que déficit de formation, déficit de formation initiale et puis la crise derrière, aujourd'hui, dans tous les domaines d'activité, aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de personnel et un travail énorme au niveau de la formation à faire post-éducation nationale.
Merci beaucoup Franck Favre, merci d'avoir été en direct avec nous, nous avoir expliqué la situation dans le Bas-Rhin en Alsace et ça touche tout le pays. Vice-président du MEDEF Alsace. Après Emmanuel Macron face aux policiers et Emmanuel Macron face aux profs, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron, l'écolo Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Président est allé en mer ce matin et il a retrouvé Nicolas Hulot, son ancien ministre qui avait claqué la porte du gouvernement sans prévenir personne, hein, on s'en souvient.
Et oui, les revoilà 3 ans après, embarqués donc sur le même bateau, au large des Calanques, mais sous un ciel chargé, avec quelques averses, tant pis pour la carte postale. Alors, il n'y a pas eu d'échange direct en mer ce matin entre les deux hommes, mais ils auront certainement l'occasion de se rattraper tout à l'heure pour le déjeuner qui va réunir plusieurs acteurs clés de la biodiversité. L'ancien ministre compte y interpeller le président pour lui proposer, par exemple, de consacrer une plus grande partie du plan de relance à la biodiversité avec sa fondation. Nicolas Hulot déplore, on le sait, que ces questions écologiques ne soient plus un sujet depuis son départ du gouvernement. Il souhaite donc que ce thème revienne dans l'agenda gouvernemental à quelques mois seulement de la présidence tournante de l'Union européenne. On le sait qu'il sera assuré par la France dès janvier prochain pour une durée de 6 mois. Et puis c'est l'occasion aussi, on l'imagine, pour Emmanuel Macron eh bien de s'afficher aux côtés d'un acteur médiatique et crédible aux yeux du grand public au moment d'ouvrir tout à l'heure ce congrès mondial de la nature.
Stéphane Burgat, merci beaucoup Stéphane. Je voulais qu'on réécoute dans Europe Midi ce qu'a dit hier soir le président de la République. Il a mis les pieds dans le plat, on peut le dire. Il a dit que si Marseille était dans cet état, c'était aussi car il y avait trop de grèves et trop d'absentéisme, notamment à l'école. Écoutez.
Vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves. Et on l'a vu tout à l'heure à l'école, là aussi, quand des gens nous disent on n'arrive pas à accueillir des enfants à la commune ou... Les formidables personnels qui étaient là disent on prend la charge de beaucoup d'autres parce qu'il y a tant de pourcentages à l'école qui ne sont jamais là. L'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet. Et c'est un sujet dont il faut se parler en toute franchise parce que l'État ne vient pas investir pour en quelque sorte que certains viennent prélever leur dîme.
Alors, c'est un sujet dont il faut se parler en toute franchise. On est en direct avec vous, Sophie Ventité. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat SNES-FSU. Alors, on va s'en parler en toute franchise sur l'absentéisme dans les écoles à Marseille. Est-ce que vous êtes d'accord quand Emmanuel Macron dit qu'il va aussi falloir que les personnels fassent des efforts et qu'il n'y ait plus d'absentéisme qu'on imagine injustifié ?
Alors, il faut d'abord voir qu'il pointe une catégorie de personnel en particulier, les agents territoriaux, c'est-à-dire ceux qui sont là aussi pour faire toutes les missions qu'il y a un peu autour de l'école, l'accueil, le nettoyage, etc. Et s'il faut se parler en toute franchise, disons clairement que aussi les conditions de travail de ces collègues-là sont très dégradées. C'est pas forcément des missions qui sont faciles, avec des collègues qui ont parfois des problèmes de santé, qui sont parfois assez âgés. Et quand il faut prendre en charge ces missions d'entretien, de nettoyage, alors qu'on est soi-même dans des conditions compliquées et qu'on n'est pas du tout entendu par ces autorités hiérarchiques, ça pose problème. Donc plutôt que de pointer du doigt l'absentéisme, les grèves et certains personnels, il faudrait plutôt entendre quelles sont leurs conditions de travail parce que moi, je voudrais quand même rappeler que ces agents territoriaux, ils ne sont pas responsables de la dégradation des locaux scolaires, de leurs conditions de travail et rappeler qu'il y a quand même aussi beaucoup d'agents de la ville de Marseille qui ont quand même été à la pointe de l'engagement au plus fort de la crise sanitaire, notamment en milieu scolaire.
Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas une invention du président de la République. Visiblement, c'est le personnel de l'école qu'il a visité hier matin qui lui a fait part de cette situation.
Ouais, ça peut exister. Après, la question, c'est, puisqu'il faut se parler en toute franchise, étudier toutes les dimensions de cette situation-là. Et on entend aussi, nous, des collègues agents territoriaux à Marseille ou ailleurs qui nous disent bah « Oui, mais les conditions de travail sont difficiles, on est en fin de carrière, on ne nous écoute pas quand on demande des adaptations de postes de travail pour pouvoir faire notre mission au mieux. » Et voilà, c'est aussi ça la réalité de nos collègues qui sont agents territoriaux dans les écoles et puis dans d'autres départements ou régions, dans les collèges et les lycées.
Sophie Ventité, je voulais qu'on parle également de cette proposition, toujours du président de la République, d'accorder de l'autonomie aux directeurs d'école pour qu'ils puissent choisir les professeurs. Est-ce que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il faut savoir que c'est une idée qui a déjà été un peu expérimentée dans certains collèges de l'éducation prioritaire, avec cette idée qu'on pourrait donner plus de pouvoir aux chefs d'établissement pour recruter. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que c'est pas ce dont ont besoin aujourd'hui les écoles, les collèges et les lycées. Par exemple, dans l'Académie de Versailles, les collèges de l'éducation prioritaire, il y a eu cette expérimentation. Dans les années 2016, 2017, 2018, il y avait à chaque fois une quarantaine de postes de professeurs qui, du coup, étaient soumis à ce recrutement par le chef d'établissement. Il fallait envoyer un CV, une lettre de motivation. Ces postes-là n'ont pas été pourvus. À chaque fois, il y avait peut-être une dizaine de postes qui trouvaient preneurs. Il y avait très peu de candidats. En 2018, il y avait seulement 7 candidats pour une quarantaine de postes. Parce que c'est pas ce qu'on attend quand on est enseignant. On n'attend pas d'être recruté par son chef d'établissement. On attend tout simplement d'avoir les bonnes conditions de travail, d'avoir un nombre d'élèves raisonnable dans sa salle de classe pour pouvoir les suivre correctement, d'avoir des conditions de travail aussi qui sont dignes de ce nom. Je pense que quand à Marseille, vous avez pas de chauffage, que vous avez de l'eau qui tombe du plafond, c'est pas le recrutement par le chef d'établissement qui va résoudre ces questions-là.
Donc vous n'y croyez pas, pas vraiment. Mais ça se passe comme ça dans les entreprises. Il y a un directeur qui choisit son personnel.
Alors, c'est effectivement le mode de fonctionnement des entreprises avec une logique qui est celle du monde de l'entreprise, qui n'est pas la logique de l'école. Nous, on est vraiment sur l'idée du service public, de répondre aux besoins de tous les élèves. Et puis, on peut se poser aussi des questions très concrètes. En quoi un chef d'établissement peut être en mesure de qualifier les compétences des enseignants dans chaque discipline? Est-ce qu'un chef d'établissement, il est en mesure de savoir ce que c'est que bien maîtriser l'espagnol, ce que c'est que de bien maîtriser l'histoire géographique, la physique-chimie, l'EPS ou les sciences économiques et sociales. Donc, on est vraiment sur une autre logique qui est celle du service public, de l'école, où il faut finalement répondre à cet impératif de scolarisation dans de bonnes conditions par tout le monde et sans rentrer dans la course au projet, sans rentrer dans la course à se montrer, se mettre en avant plus qu'un autre. Et c'est une logique différente du privé et il faut l'assumer.
Merci beaucoup Sophie Ventitet, secrétaire générale du syndicat SNES. FSU, 12h41, restez bien avec nous sur Europe 1. On va parler de l'encadrement des loyers. Il y a 3 municipalités qui veulent le mettre en place au début de l'année prochaine. A tout de suite.
Europe Midi,
Romain Desarbres. 12h44, le Grenelle contre les violences faites aux femmes. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le Premier ministre s'est rendu, d'ailleurs sur place dans la Manche, rencontrer des spécialistes ce matin. L'un des enjeux pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est améliorer l'accueil des victimes par les forces de l'ordre. Et puis il y a la plateforme téléphonique qui a permis ces 3 dernières années 30 000 échanges. On voit ça avec Marion Dubreuil.
Oui, une femme sur deux qui se tourne vers cette plateforme est victime de violences conjugales. 1 heure en moyenne de chat avec une 50aine de policiers et gendarmes formés au cycle des violences qui se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les victimes sont anonymes au départ et dans un tiers des cas, c'est un premier pas avant de franchir la porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat. Sandrine Masson, responsable de la plateforme pour la police nationale.
Nous pouvons signaler ce chat auprès des commissariats de police qui contacteront la personne qui lui permettra de ne pas avoir à réexpliquer les faits en sonnant à l'interphone, par exemple sur la voie publique et en les réexpliquant à l'accueil. Même si la personne, dans un premier temps, ne souhaite pas nous donner ses coordonnées, si la personne nous explique qu'elle vient d'être victime de violences conjugales et que nous savons que cela va recommencer, nous transmettons le chat pour une identification de son adresse IP auprès du commissariat de police qui pourra reprendre contact avec la dame.
Après 3 ans de renfort en termes d'effectifs, la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes devrait se développer encore avec le lancement d'une application mobile.
La politique, les faits remontent à 2017. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics contre François Fillon. La justice veut en savoir plus sur un assistant parlementaire, l'écrivain Maël Renoir, qui aurait aidé l'ancien Premier ministre à écrire un livre. L'avocat de François Fillon dénonce un acharnement. Que sait-on exactement ? On voit ça avec Gladys Laffitte.
Oui, ce sont les policiers de l'Office anticorruption qui enquêtent sur l'emploi comme assistant parlementaire de Maëlle Renoir entre 2013 et 2015. L'écrivain était la plume, comme on dit, de François Fillon lorsqu'il était Premier ministre, puis il a été embauché pour écrire son livre programme de l'époque, appelé « Faire », vendu à plus de 300 000 exemplaires. Alors est-ce que cette seule tâche d'écriture justifiait ce contrat d'assistant parlementaire? Et tout simplement, est-ce que cela rentrait dans les missions de ce poste payé avec de l'argent public? C'est tout l'objet de cette enquête pour détournement de fonds publics et recel de ce délit. L'avocat de François Fillon dénonce une pure création artificielle du parquet national financier qui s'acharne à maintenir ouvertes des procédures vides et les sort opportunément quelques semaines avant le procès en appel à venir, dit-il. Effectivement, en novembre prochain, l'ex-premier ministre comparaîtra en appel dans l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes.
Cette information de Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen accepte de rencontrer Éric Zemmour à huis clos, donc sans public ni micro. Cette idée de rencontre avait été émise par Robert Ménard ce matin. De son côté, Éric Zemmour fait savoir qu'il serait prêt non seulement à rencontrer Marine Le Pen, mais aussi à débattre publiquement avec elle. Marine Le Pen répond donc à cela qu'il n'y a pas de primaire dans son parti, car elle en est la candidate légitime. Échanger, oui. Débattre, non. L'encadrement des loyers, ça existe déjà à Lille et à Paris. 3 municipalités à majorité de gauche, Lyon, Bordeaux, Montpellier, vont le mettre en place au début de l'année prochaine. C'est censé éviter les flambées de prix, les flambées de loyers et échapper à la loi de l'offre et de la demande. Clément Saffre, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers?
Alors, je vais vous donner des chiffres, ça va être très concret. À Paris, l'encadrement des loyers a été annulé par la justice fin 2017, puis rétabli mi-2019. Sur cette période de près de 2 ans, les loyers ont augmenté de 5%. Depuis que le dispositif a été rétabli, ils ont baissé d'un peu plus de 1%. Alors, ce n'est pas dû qu'à l'encadrement des loyers, il y a aussi la hausse des achats, mais ça a joué. Autre exemple à Lille, annulation en 2017, les loyers augmentent alors de 4% en 2 ans et demi. Depuis le rétablissement de l'encadrement il y a 1 an et demi, pas de baisse des loyers, mais déjà une stabilisation. Donc, si on se place du point de vue d'un locataire, l'encadrement est une bonne chose. Il n'entraîne pas une baisse drastique des loyers, certes, mais il empêche une envolée des prix. Or, dans les 3 villes qui ont été retenues par le gouvernement pour cette deuxième phase, il y avait besoin de mettre un coup de frein. En 4 ans, les loyers ont augmenté de 4% à Montpellier, de 10% à Bordeaux et de 22% à Lyon. Maintenant, il y a 2 ombres au tableau. D'abord, le manque de contrôle. Les mairies n'ont pas le pouvoir de sanctionner les propriétaires qui ne respectent pas la loi. Donc, il y a des abus ici et là. Et puis, l'encadrement des loyers diminue le rendement des biens immobiliers. Et ça peut donc repousser les investisseurs dans les villes où il est mis en place.
Merci beaucoup Clément Le Saffre pour ces explications. 12h49, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, les nouveaux ennuis de Didier Deschamps. Les nouveaux ennuis de l'équipe de France de football. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h52. Vous savez ce qu'on dit, hein ? Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a aussi la version chiracienne, on va être poli. Les ennuis, ça vole en escadrille. Cyril de la Morinerie, service des sports d'Europe 1. Ça peut être ce qui est en train de se... oui. C'est peut-être ce qui est en train de se dire Didier Deschamps, hein. Après le nul face à la Bosnie, il y a la blessure de Kylian Mbappé avant le match contre l'Ukraine demain soir.
Exactement, les Bleus doivent arriver d'un instant à l'autre à Kiev sans Kylian Mbappé. Son cas a fait débat hier. L'attaquant ressentait une gêne au mollet, mais l'IRM n'a rien révélé. Le PSG a insisté pour que le prodige rentre à Paris car la Ligue des Champions arrive dans moins de 15 jours. Et finalement, Didier Deschamps a accédé à la requête du club parisien. Jouer sans Mbappé va encore compliquer la tâche du sélectionneur, insiste l'ancien international Laurent Fournier.
L'absence de Mbappé va mettre en difficulté l'équipe de France, c'est sûr. C'est le joueur qui est toujours en mouvement, qui demande les ballons dans la profondeur, qui a marqué des buts avec son club, le Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout l'équipe de France. Il va falloir qu'elle retrouve une certaine sérénité. Et puis, il va falloir que des joueurs reprennent leur niveau. Mais il va falloir que vite remondir rapidement pour se qualifier.
Voilà, pour remplacer Mbappé, Kingsley Coman et Anthony Martial se tiennent prêts. En tout cas, il y a mieux pour retrouver de la sérénité et de l'efficacité. Les Français qui s'entraîneront à 18h ce soir au stade olympique de Kiev.
Merci beaucoup Cyril. Et puis, est-ce que vous aimez ABBA? Vous le savez, le groupe sort un nouvel album. Ils ont dévoilé 2 titres. Ils ont encore beaucoup de talent. On retrouve la patte ABBA dans ces titres. Tiens, on écoute Don't Shut Me Down.
I believe it would be fair to say to look beyond.
C'est vraiment du ABBA, hein. C'est le dernier album, nouvel album, 40 ans après la séparation du groupe. Tiens, un autre titre, I Still Have Faith in You, j'ai toujours la foi en toi. Nouvel album, c'était il y a 40 ans, c'était les années disco. Je suis sûr que vous êtes fan, tiens, derrière votre poste de radio, 12h55, ça fait du bien là-bas. La météo, tout de suite, attention, l'Hérault est en vigilance orange et il faut faire attention aux orages, Anissa Haddadi. Hein.
Oui, il va falloir être prudent cet après-midi, Romain, puisque c'est dans le sud que les orages seront les plus nombreux, ils vont gagner du terrain. Depuis ce matin, le ciel est très couvert entre les Pyrénées et les Alpes. Tout l'après-midi en Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne, sur le Limousin, la Provence, la Côte d'Azur et même la Corse, le ciel est très chargé. Il va lâcher des averses, ce ciel, des averses fréquentes qui seront localisées en montagne avec des orages. Au bord de la Méditerranée aussi, ces averses seront orageuses. Des orages qui pourraient être forts avec de la grêle et de forts cumuls de pluie dans le sud. Au nord de la Loire, là c'est l'été qui se poursuit, le soleil brille de la Bretagne jusqu'au Grand Est. Les températures sont en hausse dans le nord avec cet après-midi 23 degrés à La Rochelle, 24 à Bordeaux, 25 degrés pour Brest et Lyon, 26 degrés à Strasbourg et Albi, 27 pour Nice et Paris, 28 degrés à Rennes et Bastia, 29 pour Troyes et Ajaccio. Ce week-end, samedi, nous aurons encore des orages sur le centre de la France. Dimanche, c'est du grand et beau soleil pour tout le pays, avec des températures en hausse jusqu'à mardi.
Merci beaucoup Anissa, 12h56, restez bien avec nous sur Europe 1. On est bien ensemble dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.